La résistance, nous sommes donc le cinquième jour du festival. On était hier sur les deux jours de la thématique la propriété s'envole. Et donc nous avons un dernier moment autour de cette thématique avec un café ciné avec Marie Do, la réalisatrice du film Chronique d'une pervolée, que vous avez peut-être pu voir hier soir. Donc il nous emmène dans les barrios, un peu des bidonvilles de Caracas, et cette lutte des communautés, entre autres ces jeunes femmes qu'on suit, pour acquérir leur titre de propriété. Donc là, on a un petit moment d'échange avec toi, pour plus parler, on va revenir évidemment sur ton film, mais l'idée c'est aussi de parler de ton parcours de réalisatrice, et de ton rapport au cinéma de manière plus large. Donc j'ai vu que tu avais commencé plutôt par de la théorie du cinéma dans ton parcours, avant d'aller vers les ateliers d'art pour plus en pratique. C'est ça ?
C'est ça, tout à fait. J'ai fait des études de lettres et des études de cinéma, effectivement, théorie du cinéma. Et puis en fait, mes toutes premières expériences avec l'image, je les ai connues en travaillant avec des compagnies de théâtre. Dans les années 2000, j'ai beaucoup travaillé avec des compagnies en Bretagne et je réalisais des vidéos qui étaient intégrées à des scénographies. C'était ma manière de travailler n'était pas de faire des images du plateau lui-même, mais plutôt d'aller filmer des images documentaires, des images à l'extérieur du théâtre, que je ramenais sur le plateau, sur scène. Et voilà, il y avait toute une construction scénographique entre ces images et le plateau et les comédiens et le décor. Cette manière de travailler les images qui était déjà du documentaire mais qui était aussi hybride en fait, qui travaillait avec le plateau, j'ai fait ça pendant quelques années avec toujours le désir de faire des films que je faisais un peu dans ma cuisine, et c'est le cas de le dire parce que j'ai fait des films qui sont jamais sortis de mes tiroirs mais qui étaient vraiment des films dans la cuisine, hein, les personnages étaient la bouilloire absolument. Et effectivement j'ai fait les ateliers Varan avec un projet de film, puisque le principe des ateliers Varan c'est qu'on a on vient avec un projet court métrage et on a un temps très court qui est le temps de la formation qui va être de 3 mois pour réaliser ce film. Et donc j'ai réalisé un film qui s'appelle Voilà et qui se passe qui est une déambulation dans les services d'objets trouvés à Paris, donc les gares, les musées, les hôtels, et qui est un peu une variation comme ça autour de ce qu'on laisse derrière soi et qui en fait est encore empreint de beaucoup d'affect de nos objets et des gens qui en prennent soin. Alors c'est intéressant parce que ça c'était un film que j'ai réalisé en 2005 et je sais qu'il existe toujours, c'est un livre d'objets trouvés, mais je pense qu'il y a beaucoup moins de gens pour s'en occuper aujourd'hui. Par exemple dans les trains, à l'époque il y avait des gens qui, à chaque fois qu'on sortait du train, il y avait des gens, des employés de la SNCF, ce qui n'est pas leur unique travail, hein, mais qui systématiquement faisaient le tour des trains. Et pour vérifier qu'on n'avait rien oublié, évidemment, ça n'existe plus. Après, il y a des gens qui font le ménage et qui, donc, sans doute, sont amenés à récupérer des objets, mais bon, voilà, petite anecdote. Donc voilà, pour vous dire comment, finalement, j'ai fait les ateliers Varan et j'ai fait ce film. C'était 2005.
Et après, tu te lançais déjà sur un premier film au Venezuela. Donc, qu'est-ce qui t'a amené? Parce que là, donc, c'est avec Chronique de l'Étavolé, un deuxième film. Je sais que tu es sur un troisième film au Venezuela. Quel est ton lien déjà avec le pays?
Alors, moi, j'ai pas de lien direct familial, ouais. Mais par contre, j'ai un lien amical. J'ai des amis, en fait. qui vivait à Paris, franco-vénézuélien, et qui, dans les années 2000, évidemment, faisait des allers-retours, allait voir leur famille à Caracas. Et des gens, évidemment, c'est pas rien évident, mais qui étaient politisés comme moi je l'étais à l'époque. Et quand ils revenaient, les récits qu'ils faisaient de ce qui était à l'œuvre et en jeu à Caracas, donc là je vous dis, c'est très longtemps que vous avez tenu là, milieu des années 2000, tout ça était bien loin, bien différent de ce que moi je pouvais en lire ici en France. Et notamment, évidemment, une grande défiance dans les médias français par rapport à l'expérience Chavis, et puis des récits concrets de leur part qui me racontaient des choses qui me semblaient assez, assez enthousiasmantes, et surtout aussi une manière de déconstruire ce que, voilà, ma vision des choses que je trouvais assez intéressante. Et finalement, ce hiatus entre ce qu'on m'a raconté et ce que je pouvais en lire ici, ça a été un moteur, et j'ai eu envie d'aller voir. Donc j'ai pris un billet un jour, et puis j'ai suivi mes amis. Et ça, c'est... j'ai fait un premier voyage en janvier 2007.
Donc j'en étais plutôt... Enfin, j'étais encore dans l'air Chavez.
Exactement. Quand j'arrive en janvier 2007, en fait, Chavez vient d'être réélu pour un deuxième mandat. Voilà, le moment du pays est assez particulier parce que lors du premier mandat de Chavez, en fait, il y a eu ça a été très conflictuel, c'est-à-dire qu'il y a eu un coup d'État, il y a eu un lock-out pétrolier, et là, en fait, à l'occasion de cette deuxième élection qui venait de gagner, quelque chose s'était un peu apaisé, l'opposition avait accepté de se présenter, n'avait pas boycotté les élections. Et donc, Chavez remporte ses élections dans un contexte où finalement, à la fois, il y a une espèce d'apaisement politique, et où les gens se disent, eh ben, on va pouvoir, là, dans le mandat qui s'ouvre, vraiment faire ce qu'on a à faire, et pas être constamment en lutte pour essayer de maintenir cette légitimité avec là. Donc voilà, j'ai mis le pied à Caracas exactement à ce moment-là. Et c'est un moment très, très particulier et assez mouvant, en tout cas pour moi, un moment de grande expérience politique. Et je rencontre, grâce à ses amis, Michichou, Julien Cartier, parcours un peu dans le vent comme ça, un peu un tourisme politique, hein, que j'assumais complètement, vraiment de comprendre ce qui était en jeu. Et effectivement, là-bas, je n'étais pas la seule à faire ça. Il y avait beaucoup d'Européens qui étaient là, beaucoup de Français, de Belges. Parce que ça suscitait une grande curiosité, évidemment, du temps. Et donc, voilà, ce qui moi m'intéresse à l'époque, c'est effectivement de voir un peu comment se met en place ce système de redistribution de richesses, en fait, hein, qui est un peu le cœur du programme Chavis, récupérer l'argent du pétrole et puis le redistribuer. Et c'est concret, donc voilà, Et il y a une deuxième chose qui m'intéresse à ce moment-là, c'est que les gens que je rencontre, mes amis d'amis, etc., qui travaillent soit des universitaires, sociologues, etc., qui ont décidé de rentrer dans le ministère, soit des militants qui travaillent dans les quartiers, ou juste des copains qui n'ont pas une charge comme ça spécifique, mais qui vivent dans le pays, je perçois une grande générosité. On va raconter ce qui est en train de se passer. Moi, j'arrive, j'ai plein de questions. Il y a un truc d'assez beau, quoi, d'un désir de partage. Et c'est ça que je vois dans ce premier voyage. Et à ce moment-là, en me baladant dans les rues de Caracas, il y avait à l'époque plein de gens qui avaient beaucoup de commerces informels, en fait, dans les rues, plein de vendeurs à la sauvette,
qui n'ont plus tellement de temps à la sonnette que ça, puisque finalement Chavez avait décidé d'arrêter de les chasser des rues. Donc voilà, ça, c'est, les gens étaient un peu installés comme ça sur des tables en plastique et puis vendaient ce qu'on peut imaginer qu'on peut vendre dans le commerce informel, c'est-à-dire beaucoup de DVD piratés, beaucoup de CD piratés, des trucs en plastique pour s'attacher les cheveux, donc bah, vous voyez de quoi je vais parler. Déambulant comme ça, j'ai commencé à repérer qu'il y avait des vendeurs qui avaient des tables devant eux avec plein de petits fascicules de toutes les couleurs, c'est des mosaïques comme ça. Ce truc-là m'attire et au bout d'un moment, je comprends qu'en fait,
il y en a plein de gens qui font ça. Et en fait, je comprends qu'il y en a plein parce qu'il y a plein de gens qui achètent. Et là, je me dis, mais comment ça Et donc, je m'approche, là je vois que c'est pas juste une explication de loi, mais ce sont les vrais textes de loi, qu'il y a aussi la Constitution, etc. Et je vois que les gens, non seulement achètent, mais s'arrêtent, regardent, lisent, commentent, et que ça crée des discussions politiques, et que les gens, les vendeurs qui donc ont ces stands, se retrouvent à être en plus, comment dire, un peu connaisseur puisqu'ils conseillent leurs clients, et que ça fait une espèce de coin. Alors, eux, ils appelaient ça les coins chauds, les coins de rue chauds, quoi, qui sont des endroits de discussion politique, quoi. Et là, je me dis, mais c'est absolument génial, et je décide de faire un film avec les vendeurs de rue. Donc je reviens ensuite quelques années, enfin voilà, je repars, j'écris, je reviens et je tourne ce film avec quatre personnes. Alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai plutôt filmé des hommes, parce que les vendeurs sont plutôt des hommes, après les clients c'est hommes et femmes. Et c'était très intéressant parce que du coup il y avait tout toute une relation à la question du travail, à l'informalité. Et aussi, c'était vraiment pour moi, très métaphorique, on va dire, ou autonomique de ce qu'était ce moment politique, quoi. C'est-à-dire, c'était les gens qui étaient informels, qui étaient dépositaires de la parole légale. Il y avait, ça racontait vraiment quelque chose de ce qui était en train de se passer, et y compris dans son côté, expérimental. Parfois, la police venait, les chassait, et puis ils étaient derrière avec la Constitution, et ils disaient « la loi, pas cher !» et tout. Donc, ça faisait un truc complètement un peu surréaliste, et en même temps, très pas du tout anecdotique, c'est-à-dire que les conversations des gens sur les coins de trottoir étaient des conversations où les gens, ils pouvaient filmer ça, c'est-à-dire on ouvre la loi notamment déjà une loi sur l'occupation des terrains vides. Et là, les gens, ils sont dans un coin de rue, là, il y a un terrain vide, et donc les gens se disent, qu'est-ce qu'on fait? On y va? On prend? Alors, attends, je lis le truc, là, je te dis, attends. Et donc, faut passer par le conseil communal. Ok, donc, voilà, les choses se font vraiment... quelque chose s'opère là entre le texte, la distribution du texte, son interprétation, etc., vraiment sur le coin de rue.
Une appropriation justement des lois.
Exactement. Des lois, et y compris aussi déjà très intéressant parce qu'il y a toutes les contradictions aussi un peu à l'œuvre dans le moment politique. Elle commence aussi à apparaître à ce moment-là. C'est-à-dire que. Donc je vous dis, premier voyage 2007, là je suis revenue pour filmer 2008-2010. La question de, effectivement, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire, qu'est-ce qui est légal, pas légal? À quel moment l'État veut récupérer la mise? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement qu'une démocratie participative, qui était vraiment au centre, au centre de la question chaviste, à partir du moment où le pouvoir commence véritablement à rebasculer du côté de la population, quel enjeu pour l'État? Est-ce qu'il se laisse faire ou pas? Et à quel moment on relutte pour ça?
et bien ça commençait déjà en fait à apparaître à ce moment-là. Avec la question de justement aussi de la présence de ces vendeurs de voix, puisque à ce moment-là, tous ces gens qui vendaient dans la rue et qui faisaient partie d'un secteur informel, en fait, étaient en négociation avec l'État pour obtenir des places dans des centres commerciaux fermés, etc. Et c'était, bon, il y a eu toute une négociation avec les syndicats de ces vendeurs, etc. Et donc ça racontait aussi ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont sortis des rues, ils se sont retrouvés dans des centres commerciaux, et c'était terrifiant, personne ne venait rien acheter là-bas. Enfin bon, bref, donc, les solutions proposées n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qui aurait permis à la fois de stabiliser les gens et puis de continuer cette diffusion aussi, notamment là, en l'occurrence des voix. Donc, voilà, tout ça était déjà un peu à l'œuvre, dans ce côté très dynamique, des choses qui évoluaient de voyage en voyage, quoi.
Et avec donc, le film qu'on a vu hier, c'est encore une autre période, on va dire, du Venezuela. Et on peut dire une chute selon le point de vue qu'on a, mais en tout cas, on passe d'une utopie, de l'utopie chaviste, ces moments expérimentaux. À une confrontation d'un État qui est en tout cas de plus en plus bureaucratique. Et donc, chronique d'une terre volée, juste pour résumer, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est la lutte de ces communautés dans les barrios de Caracas pour avoir les titres de propriété sur leurs espaces. Ils doivent remplir un certain nombre de critères, entre autres, créer l'histoire, écrire l'histoire de leur quartier. C'est très beau en même temps de faire ça. Et aussi, moi, quelque chose qui m'a marqué, c'est qui me fait écho dans d'autres villes en Amérique latine aussi, c'est tous ces quartiers-là qui ne sont pas sur la carte, qui n'existent pas sur la carte, qui ne sont pas, en Colombie, où la voiture Google, enfin, quand elle passe, nous sommes sur la carte. Mais là, on voit, il y a des zones vides, comme si c'était des champs, alors que non, des milliers de personnes vivent sur ces zones-là. Donc là, c'est encore une autre étape que tu as.
Quand j'étais en train de réaliser ce film avec les vendeurs de lois, qui s'appelle « Parce que nous sommes souverains », j'ai entendu, c'est des copains en fait qui vivaient dans un quartier populaire de Caracas qui me disent à l'époque, il y a dans les locaux des associations locales, dans les quartiers, on a rédigé des chroniques du quartier. Et on les a rédigées, et elles sont là, il faudrait absolument faire quelque chose, on n'a pas... il faudrait les publier. C'était un peu le point de départ de ma recherche par rapport à ce film, parce que j'étais intéressée et intriguée par ces histoires dont il me parlait. Donc j'ai commencé à chercher, et c'est uniquement après coup que j'ai compris que ces histoires, elles avaient été rédigées dans le cadre de la loi de redistribution des terres, ce qui n'avait fait que de me rendre ça encore plus intéressant. Et effectivement, là, je me suis dit qu'il fallait raconter cette histoire, cette relation métaphorique entre l'histoire qu'on raconte, le lien qu'on a à un lieu et sa valeur. C'est-à-dire qu'on n'achète pas un terrain, on l'acquiert par l'histoire qu'on y a vécue.
Par son usage.
Exactement. Et effectivement, le temps de refaire le projet, etc., se passe effectivement du temps. Et Chavez meurt en 2013. Et alors, je fais quelques repérages. Je mets un peu de temps avant de trouver le quartier où j'ai envie de raconter cette histoire. Je commence en 2015. Et effectivement, alors, la particularité, c'est que moi, j'ai jamais vécu au Venezuela. Et donc, j'y ai fait des voyages réguliers, comme ça, ce qui me met dans un rapport d'extériorité assez grand donc, par rapport à cet endroit. Et en même temps, je sais pas comment dire, il y a un truc un peu pendulaire comme ça, ce qui fait qu'à chaque fois que je reviens, il y a une espèce d'effet d'accélération où je peux mesurer l'étendue des changements, en fait, comme ça, très rapidement, parce que je comprends que mes repères ne sont plus les bons, quoi. Et donc, je vois à chaque fois l'avancée de l'évolution du pays. Et donc voilà, donc, quand je commence à filmer en 2015 que j'ai trouvé ce quartier où je veux raconter cette histoire de redistribution des terres parce que j'ai vu qu'il y avait un groupe d'habitantes qui était en train de faire la demande du titre de propriété, j'avais donc repéré depuis quelques temps et voilà, j'arrive là, Maduro est au pouvoir depuis 2 ans. Et moi, quand j'écris le projet, je me dis que je vais raconter cette histoire de lutte et que je sais que ça va durer longtemps parce que j'imagine que je vais filmer tout le processus en fait de l'écriture des chroniques, le processus administratif. Donc j'imagine que ça va prendre plusieurs mois. Mais avec l'idée de se dire, on va voir ce que ça va donner. Bien sûr, il n'y a aucune garantie, mais bon, voilà. Et donc je pars pour une production un peu au long cours. Et évidemment, ça ne se passe pas comme on avait un peu imaginé, ou peut-être que si, ça se passe comme on aurait pu l'imaginer, selon là où on se trouve. Et le pays comme, bascule dans la crise assez vite, en fait, hein, à partir de 2015-2016. Et c'est vrai que les dynamiques que j'avais commencé à voir, moi, dans ce quartier très actif collectivement, et vraiment, enfin voilà, il y avait des assemblées toutes les semaines, des assemblées de voisins, c'était blindé de gens. Donc il y avait vraiment, même si le pays commençait à montrer vraiment des signes de crise, il y avait une dynamique collective assez hallucinante. Et en fait, j'ai pu voir que cette crise qui se répandait partout dans le pays, et notamment à travers les pénuries alimentaires gravissimes, a complètement percuté le pays, mais aussi la dynamique à l'intérieur du quartier. Et ensuite, le temps passant, puisque moi je savais que voilà, les choses allaient se faire un peu... sur la longueur, je revenais, et en fait, en revenant, bah, évidemment, tout le contexte du pays changeait, et finalement, j'attrapais ça dans le récit, parce que, forcément, ça impactait la vie quotidienne des gens avec qui j'étais.
On le voit, je trouve, dans la différentes séquences où on a Alejandra qui parle beaucoup d'autogestion, qui est un peu le... On va dire l'utopie chaviste, comment elle a été formée, ce qu'elle a envie de faire fonctionner pour sa communauté, son barrio, et la sécurité. Beaucoup de gens qui lui opposent, non mais la sécurité, pour la distribution alimentaire, ça c'est mal passé, il faut de la sécurité. Nous, pour le quartier, on va faire de la sécurité. Et c'est, je pense, symbolique un peu du basculement de Chavez Maduro.
Oui, eh ben, tout à fait. C'est-à-dire que là, dans cette controverse très concrète, avec un événement tout à fait concret, effectivement, on voit quelque chose du basculement, en effet, de comment se gère un conflit. Et là, c'est effectivement hyper symptomatique. C'est un peu réduit à sa plus simple expression, hein, autogestion versus autorité, mais en effet, ça incarne vraiment quelque chose de cet ordre-là, avec la question de la hiérarchie ou du collectif, et comment ça s'opère. Et effectivement, toute cette histoire d'autogestion, alors qu'il n'a pas du tout été inventée par Chavez, hein, les quartiers populaires, les premiers avaient été créés. On voit dans le film, hein, le premier plus ancien raconte que c'est en 1914 que les premiers barrios ont été, les premières cabanes ont été construites. On peut imaginer plus de 100 années d'existence avec 100 années de lutte, en fait, puisque évidemment c'est lutte pour être là, lutte pour les services publics, lutte contre l'État qui est extrêmement oppresseur à certains endroits et à certains moments. Et donc cette culture d'autogestion, elle est longue. Et quand Chavez arrive au pouvoir, effectivement, ce qui change, c'est ça, c'est le regard de l'État envers les quartiers populaires. C'est-à-dire qu'au lieu d'une relation de défiance ou une relation un peu d'aumône à certains moments des élections, ça se transforme en, à un moment donné, alors, au départ, une revalorisation même symbolique en fait, de cette culture populaire et de cette culture de lutte, et qui effectivement, au fil des années et avec l'arrivée de Maduro, là pour le coup se retourne à nouveau. Et c'est ça qu'on, voilà, c'est ça qu'on voit en fait, qui se passe.
Après, sur les récits de chroniques, dans le film, on voit sur des images plutôt Super 8 en noir et blanc, et des écrits, donc qui sont des extraits de ces chroniques, qui doivent être faites sur le quartier, mais on voit des histoires extrêmement anciennes, enfin, vraiment une historicité des barrios. Et donc, tu disais que ça s'était fait de manière très différente selon les barrios, mais d'où vient en fait ce récit et cette mémoire, comment elle a été récupérée?
Alors, en 2002, Chavez publie un décret de grande redistribution des terres urbaines et propose, sur la base d'un texte qui avait été rédigé par les militants eux-mêmes, les militants des barrios, propose aux habitants des bidonvilles d'obtenir la propriété de la terre en échange de l'histoire de leur vie dans le quartier. Et évidemment, en échange d'un premier cadastre qui sera réalisé à cette occasion. Avec ces deux documents, on peut prétendre à la propriété de la terre. Et donc à ce moment-là, 2002, tous les habitants, les militants, etc., donc, comme on vient de le dire, ce sont des gens qui sont déjà dans une pratique politique depuis très très longtemps, se disent, bon ok, il va falloir qu'on raconte notre histoire, et aussi parce que ça fait partie du processus, et aussi parce que une décision un peu symbolique de raconter ça. Et alors, on peut imaginer, il y a plus de nombre d'associations dans Caracas, j'ai des difficultés à vous donner un chiffre exact, mais c'est des milliers d'associations de quartiers qui sont concernées par cette démarche. Donc potentiellement des milliers de chroniques de quartiers qui ont été rédigées à cette occasion. Et chacun s'y est pris un peu à sa manière. Il y en a qui ont utilisé la méthode qui avait été proposée par le ministère pour écrire la chronique, d'autres qui se sont chargés de faire ça eux-mêmes, d'autres qui ont fait appel à des historiens locaux, chacun un peu imaginé. Parfois, il y en a qui sont allés faire le tour des maisons pour demander les histoires, d'autres, ils ont demandé aux plus anciens de venir en réunion et ils ont écouté et rédigé ce qu'ils avaient écrit. Bref. Des formes et des contenus extrêmement divers. Quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, ça, ces archives, je les ai cherchées parce que moi, pour se remettre un peu dans la chronologie, 2002, c'est le premier décret. Moi, je commence à travailler vraiment sur le sujet en 2013-2014. Et donc j'entends parler en fait de toutes ces chroniques. J'en vois quelques-unes dans les quartiers que je connais parce qu'ils en avaient des copies, ils me les montrent, mais le côté gigantesque de l'affaire, j'ai pas la main dessus quoi. Donc je fais l'hypothèse que ça doit être quelque part dans les archives de l'administration, puisque assez logiquement je vais voir au cadastre, à la mairie, s'ils ont donné les titres de propriété, c'est qu'ils ont dû avoir les dossiers à un moment donné. Et ça a été un peu un cheminement quand même, parce que je ne suis pas arrivée là tout de suite. Et puis évidemment, à un moment donné, je suis arrivée effectivement à la mairie de Caracas et j'ai ouvert une porte. Et là, c'était la caverne d'Ali Baba. Il y avait des dossiers. Et là, j'ai commencé à ouvrir. Et c'était très, très émouvant en fait, parce que y avait toute la ville qui se recomposait un peu comme ça au fil de la lecture des dossiers. Et puis comme c'était tellement différent les uns des autres, c'était vraiment hyper poignant de voir comment les gens avaient choisi en fait de faire leur autoportrait, parce que c'était vraiment ça dont il s'agissait. Quelle forme ils avaient choisi, est-ce qu'ils avaient mis des photos, est-ce qu'il y avait beaucoup de plans dessinés à la main, il y avait parfois des cartas qui faisaient une page et qui étaient très très succinctes, d'autres parfois qui faisaient... 60 pages. Bon, et toute cette matière mosaïque, ça faisait... Alors, en fait, ça, pour moi, ça renvoyait vraiment plus du côté de la geste ou, ou d'une espèce de mythe de création de la ville. C'est-à-dire que ça basculait vraiment beaucoup plus du côté de l'imaginaire, de la fiction, tout en étant aussi un document hyper juridique, quoi. Et ça, je trouvais que c'était... Voilà, encore une fois, quelque chose qui, moi, me passionnait dans ce processus politique aussi, quoi. Et donc, j'ai essayé de trouver une manière de restituer ça dans le film. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on racontait au présent l'histoire d'un quartier à l'échelle 1 qui était en train de faire cette démarche pour obtenir la propriété de la terre avec des personnages de ces jeunes femmes qui étaient en train de récolter la chronique, je voulais faire surgir aussi, en tout cas, l'idée qu'il y avait eu tous ces autres récits. Et donc, c'est moi qui ai fait ces images en super noir et blanc. Et je les ai faites en m'inspirant des images que j'ai trouvées dans les dossiers. Parce qu'il se trouve que les dossiers qu'il y avait dans ces archives étaient des dossiers photocopiés. Et donc, ça avait fabriqué quelque chose d'assez particulier par rapport aux photographies qui étaient dans les dossiers. C'est-à-dire que c'était un peu délavé, un peu en noir et blanc, un peu mystérieux. Ça renvoyait un peu dans l'esthétique des débuts de la photo. Enfin, il y avait un truc un peu comme ça qui était vraiment très, très beau. Et comme il se trouve que par ailleurs, j'avais une pratique super 8, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé immédiatement. Je me suis dit, je vais mimer, en fait, ces images. Je vais les copier. enfin, je vais leur rendre hommage pour essayer de faire comprendre l'émotion que moi j'avais eue un peu comme ça à la découverte de ces dossiers. Et sur ces images, j'ai choisi des fragments en fait de ces autres chroniques que j'ai trouvées dans ces archives pour voilà, venir faire comprendre l'histoire et le fond politique de ce qui était à l'œuvre avec cette réforme et surtout de ce qui était à l'œuvre avec cette affaire du droit à la ville, d'y appartenir, d'être là, et cette histoire, cette très longue histoire d'accaparement des terres, puisque c'est ça qui au final apparaît de manière très puissante dans ces archives.
Et oui, donc moi c'est donc la question un peu de base, parce que ces chroniques remettent dans une historicité donc le quartier. Donc le titre de ton film est Chronique du terre volée. Mais donc la question c'est, alors qui a volé la terre? C'est qui le voleur?
Exactement. Et ben c'était ça. Ce titre. M'intéresse parce que je voulais que le spectateur bouge au long de l'expérience du film et que de prime abord on se dit que la terre a été volée par ses habitants et que au fur et à mesure que le film avance on comprend en fait que la question de qui a pris se déplace et que finalement, ça interroge la question de la propriété comme une création, en fait. Quelque chose qui, à un moment donné, a historiquement été fabriqué à un endroit et qu'elle a bougé, en fait, elle s'est métamorphosée. Donc, en effet, ce vol, il bascule, en fait, d'un ladron à l'autre, oui. D'un voleur à l'autre.
Et d'autant plus en Amérique latine, qui est bon, une terre d'immigration par les Espagnols, par une population métissée aujourd'hui. Enfin, voilà, le vol peut pris d'une manière historique, d'une manière très, très, très longue. Quoi.
Exactement. C'est-à-dire que. Et c'est ça le comment dire. Le secret ou la révélation pour moi hein, de toutes ces archives de chroniques, c'est que ça remonte jusque-là. C'est-à-dire que les gens qui sont qu'on a traités entre guillemets d'envahisseurs au moment où ils ont pris les collines pour construire leur cabane, sont tout à fait conscients en fait que cette terre exactement à la base a été prise par d'autres et que cette longue succession d'accaparement en fait elle est et c'est aussi une longue c'est aussi une histoire de violence en fait. Une histoire de violence qui dont ils sont effectivement eux aussi les héritiers comme ça dans la continuité de toute cette de ce rapport à l'espace et au territoire.
Plus d'un point de vue technique, en tout cas d'écriture cinématographique, là par exemple sur le tournage, comment vous étiez une équipe de deux, comment tu vois, c'est un côté cinéma direct vraiment.
Oui, en fait, j'ai mis un peu de temps à mettre en place le dispositif de tournage et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que j'habite en fait le quartier et que je sois seule. Parce que, en fait, les dynamiques en fait, au sein du quartier sont extrêmement fragiles, mouvantes. Il arrive très souvent qu'une réunion s'annule et ne soit pas recalée avant on ne sait pas quand. Ou au contraire que quelque chose se passe là tout de suite et qu'il faille le capter et qu'il était extrêmement difficile de prévoir des rendez-vous et d'avoir un plan de tournage. Donc au début voilà, j'ai un peu tâtonné parce que j'ai pensé que je pouvais travailler avec un ingénieur du son notamment et que je pouvais faire des allers-retours entre le quartier et un autre endroit de la ville où j'étais logée. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Donc, le fait est que le film et le lieu et les gens ont complètement imposé en fait, ma manière de fabriquer et qui était, enfin, que j'ai réfléchi hein, avant de trouver ça et que ça a tout changé, en fait. Donc, j'ai jamais vécu, comme je disais tout à l'heure, d'une manière continue au Venezuela, mais pendant les trois années où j'ai tourné, j'y ai passé à peu près la moitié de mon temps. Et j'avais une piole louée dans le quartier, et j'étais seule. Et du coup, j'ai été prise complètement par cette bande de filles. Je faisais partie de l'équipe de foot des mères du quartier. Et on a vraiment, enfin voilà, j'étais inscrite aussi pour, ouais. Et ça a tout changé en fait. Ça a tout changé pour, dans la capacité d'être à la fois identifiée par les gens et aussi par la capacité à être là pour voir ce qui était en jeu, quoi. Et ce qui fait que j'ai beaucoup d'heures de rush. Ça a été, même si je savais ce que j'allais raconter hein, et puis au fur et à mesure voyant comment la situation changeait j'avais dans ma tête mes fils narratifs qui bougeaient, c'est-à-dire effectivement j'avais une espèce d'arborescence comme ça parce que je me disais ça peut donner ça, donc j'avais des hypothèses en fait comme ça de récits qui bougeaient au fur et à mesure. Et puis que je voyais certains trucs tombaient un peu naturellement parce que d'autres arrivaient. Donc effectivement, au final, j'ai beaucoup tourné, mais des choses dont je savais que ça allait pas être utilisé, mais ça a été un peu nécessaire en fait pour que dans toute cette matière émerge une ligne comme ça narrative qui est celle qui est dans le film. Quoi.
Sur le montage, tu as pris des plans d'extérieur ou quand t'es...
Absolument. Ouais. Là, sinon, je.
On est souvent attaché à lui.
Pas survécu.
Oui. Oui, puis si tu as vécu vraiment dans le quartier, on est souvent attaché aussi au moment de vie qu'on passe dans le moment de tournage.
C'est ça. Et puis, en plus, en fait, le film que j'avais fait avec les vendeurs de lois, je l'avais monté seul. Et je savais que je ne voulais pas refaire ça. Donc, autant le tournage seul me convient très bien. Enfin, là, j'ai aucun problème avec ça, ou même au contraire. Hein, c'est quelque chose dans la pratique, moi, qui m'intéresse beaucoup, dans le rapport aux gens, au territoire, etc. Autant le montage, je suis absolument convaincue qu'il faut
un autre regard.
Deux cerveaux pour faire cette chose. Et donc, on a commencé, j'ai travaillé avec deux monteuses. Et ça a été ça a été vraiment lumineux, très long. On a beaucoup travaillé. Alors effectivement aussi sur cette ligne narrative du présent là avec les deux avec ce quartier, mais en fait ce qui a été vraiment qui nous a un peu occupé l'esprit et la créativité sur la table de montage, c'était comment on articulait les noirs et blancs, le passé avec la ligne narrative du présent, parce qu'évidemment ça produit au spectateur un effet de saute comme ça, et que on souhaitait que, enfin je souhaitais que le que ça évidemment ça fasse écho, que et que les moments de noir et blanc viennent complètement remplir les moments du temps présent, qu'on comprenne aussi grâce à ces récits du passé l'attachement des habitants à leur quartier, mais aussi l'attachement de certains habitants, y compris encore à cette expérience politique, y compris quand elle est extrêmement complexe à vivre, et que pour moi c'était important ça, en fait, qu'on identifie, qu'on ressente en fait cette longue histoire quand on était avec les filles là au quotidien dans le quartier.
Là, tu es sur un troisième projet au Venezuela, tu disais, qui est avec des écueils visiblement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Alors je peux vous en dire un mot. En fait, il se trouve que suite à ce film, j'ai été invitée par un groupe de chercheurs, sociologues et anthropologues, à venir intervenir dans un autre quartier de Caracas, qui est un quartier emblématique parce que très 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 politisé. Lui, c'est pareil, mais alors c'est un quartier avec plus ancien et qui a été pendant le chavisme un peu le fer de lance, un peu la vitrine de ce qu'a été ce moment politique, avec des gens du monde entier qui sont venus dans ce quartier et des gens de ce quartier qui sont partis dans le monde entier pour c'était un endroit vraiment très particulier. Il y avait une télé, une radio, c'était un peu un centre comme ça politique au cœur d'un autre quartier populaire de Caracas qui s'appelle La Vega. Et donc, ces copains sociologues et anthropologues, qui eux avaient aussi vécu dans ce quartier-là à ce moment des années 2000, avaient lancé depuis quelque temps un gros projet pour documenter la migration, l'exode que le Venezuela a connu dans la foulée de ce qu'on a vu dans le film hier, c'est-à-dire qu'à partir des années 2015-2016, face à l'énorme crise que le pays a connue, les gens sont partis massivement. Et massivement, hein, c'est-à-dire que les chiffres sont... Comment ?
Des millions.
Ah oui, il y a 6 millions de personnes qui ont fui le pays en quelques années. C'est massif, massif. Et ça a percuté toutes les franges de la population, ce qui est totalement nouveau, parce que jusqu'à présent, c'était plutôt la classe moyenne haute qui était partie en Europe. Et puis là, ces dernières années, c'est tout le monde, y compris les gens dans les quartiers populaires. Et donc ces fameux copains avaient décidé de véritablement essayer de documenter la migration depuis ce quartier-là. Et ils ont fait apparaître des chiffres complètement dingues. Et il se trouve qu'évidemment, à l'intérieur du pays, c'est un gros tabou, ça. Les gens n'en parlent pas, le pouvoir n'en parle pas, c'est déprécié, etc. Et, Or, ça percute complètement le pays, mais de l'intérieur des familles jusqu'à l'échelle du pays dans son entier. Et donc, ils m'ont invité à venir travailler sur ce terrain pour faire un atelier vidéo, pour justement essayer d'évoquer, par le biais de la vidéo, ces questions-là des départs. Et voilà, donc et à partir de là, ce que j'ai fait, hein, on a fait un atelier en 2022, pardon. On a décidé en fait d'imaginer ensemble un projet de film autour de cette question dans ce quartier. Donc on en est, on a repéré, on a travaillé avec certains habitants et là, le projet est en phase de développement. Voilà, c'est un peu compliqué parce que tous les événements se sont accélérés l'année dernière puisque il y a eu une élection présidentielle l'année dernière, à peu près, enfin en août dernier, où Maduro s'est proclamé vainqueur sans publier les bulletins de vote en prétextant qu'il y avait eu un piratage informatique qui n'était pas en mesure de les publier. Et du coup, le pays rentre à nouveau dans une crise absolue de légitimité et pour le coup d'autoritarisme. Donc c'est un peu, réinterroger aussi les capacités à la fois à rentrer dans le pays, etc., mais aussi pour les gens à participer, à pouvoir dire des choses, à pouvoir... ça a été un moment assez compliqué. Donc là, on espère pouvoir imaginer continuer le projet, mais il y a beaucoup de... Voilà, c'est un peu... le moment n'est pas simple.
Tu disais de manière paradoxale, sous Maduro, comme ils sont vraiment en grosse crise, il y a une espèce d'ultralibéralisme sur certaines formes de vie.
Ben, c'est ça, effectivement. Alors que parmi les choses très surprenantes qui sont arrivées, très surprenantes en tout cas, mais cet effet de surprise, moi, sur le fait de faire des allers-retours, de reprendre pied dans une autre réalité à chaque fois, c'est que effectivement le moment politique a extrêmement abîmé la question du commun, quoi, la question collective, et du coup il y a eu un repli sur la sphère individuelle, mais aussi complètement commandité entre guillemets par des politiques publiques. C'est-à-dire encourager à l'auto-entrepreneuriat, encourager à l'entreprise, parce qu'évidemment, il n'y a plus de subsides à mettre dans les politiques sociales, et du coup, c'est. Et puis, parallèlement à ça, suite au Covid, le dollar a été officieusement introduit dans le pays. Et donc, du coup, ça crée une double monnaie et un double cours et aussi un rapport, effectivement, à la devise qui n'était pas du tout... celui qui était à l'œuvre plus tôt. Et donc, du coup, il y a une espèce d'effet un peu de retournement, comme ça, ce dont je parlais par rapport au rapport entre l'État et la population. Et là aussi... économiquement, c'est assez particulier. Alors bon, après, le chavisme n'a jamais été un communisme réel, hein. Il y avait un rapport justement au possible du collectif qui là a été véritablement très très affaibli par les circonstances et aussi, politiquement. Plus vraiment à l'envers.
Donc là, ce tournage-là est un peu en stand-by, on va dire, ou en cours. En France, tu es sur d'autres choses, sur de l'écriture, ça ?
Oui, j'ai un autre projet qui se passe entre la Guyane française et la France, et qui est aussi en développement. C'est mystérieux. J'espère pouvoir vous en dire plus bientôt.
Si vous avez des questions, hein, sinon merci beaucoup.
C'était sur Canal Sud, en direct du Festival Résistance, le Café Ciné. Rendez-vous demain à la même heure sur Canal Sud 92.2.